Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Ma'oun. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Vois-tu qui traite de mensonge la rétribution? Or, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir le pauvre. Malheur donc aux célébrateurs d'office qui sont négligents dans leur office. Ceux-là qui font ostension et jettent l'interdit sur la chose d'utilité courante.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le mercredi 30 Azar, 1401 du calendrier iranien, 21 décembre 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. Les principaux auteurs de l'attentat de la ville d'Izeh en Iran ont été capturés ou tués. Riyad est prêt à poursuivre le dialogue avec l'Iran, a déclaré le ministre iranien des affaires étrangères. Téhéran dénonce le soutien honteux de Washington au chef du groupuscule terroriste de l'OMK et l'Iran critique l'ingérence de la France dans ses affaires intérieures. C'était les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le ministre iranien des affaires étrangères affirme que son homologue saoudien l'a assuré de la volonté de Riyad de reprendre le dialogue avec Téhéran. Hossein Amir Abdollahian a fait ses remarques dans un message sur Twitter après s'être entretenu avec le ministre saoudien des Affaires étrangères en marge du sommet de Bagdad 2 mardi en Jordanie. Les principaux acteurs régionaux ont déjà tenu plusieurs séries de discussions sous la médiation de l'Irak, pour résoudre leurs différends. Il y a près de deux semaines, le haut diplomate saoudien Faisal Ben Farhan a déclaré que son pays continuait à tendre la main à l'Iran pour une relation positive. Les relations diplomatiques entre les deux pays ont été rompues en 2016 après l'exécution par Riyad d'un éminent religieux saoudien. La Jordanie et l'Arabie saoudite font partie des pays qui participent à la conférence organisée par la France et l'Irak pour offrir un forum de discussion sur les problèmes de la région. L'Arabie saoudite semble avoir récemment changé de cap en montrant une volonté par des voies diplomatiques de se réconcilier avec Téhéran et de reprendre les relations bilatérales. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, dénonçant ce mardi les récentes tentatives de certains hommes politiques échoués de l'Amérique de blanchir les terroristes, a déclaré que le fait d'innocenter honteusement le chef du groupuscule terroriste de l'OMK et mercenaire criminel de Saddam Hussein démasque une fois de plus le visage des faux défenseurs des droits de l'homme américains. Nasser Kanani, réagissant dans un tweet émis ce mardi 20 décembre, a écrit : l'alliance du régime américain avec les terroristes et les assassins de plus de 17 000 citoyens iraniens est devenue plus divulguée que jamais. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a ajouté « Les récentes tentatives de certains hommes politiques échoués américains de blanchir les terroristes a montré que d'innocenter honteusement le chef du groupuscule terroriste de l'OMK et mercenaire criminel de Saddam Hussein, une fois de plus le visage des faux défenseurs des droits de l'homme. » Lors d'une réunion avec la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, mardi 20 décembre, en marge de la conférence de Bagdad 2, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a critiqué l'ingérence de la France dans les affaires intérieures de la République islamique d'Iran. Lors d'une réunion avec la ministre française des Affaires étrangères, en marge de la conférence de Bagdad 2, j'ai dénoncé l'inacceptable ingérence de la France dans les affaires intérieures de l'Iran, a écrit sur Twitter le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian. Nous sommes tombés d'accord sur le fait que la voie du dialogue et de la diplomatie est préférable, a-t-il ajouté. Le ministre iranien de l'économie a annoncé le renforcement de la coopération de la République islamique d'Iran avec la Chine, l'Eurasie et les BRICS dans tous les domaines de l'économie, y compris l'énergie, la banque, l'échange et les transports publics, dont le transport ferroviaire. Le groupe BRICS comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ces pays représentent plus de 40% de la population mondiale et près d'un quart du produit intérieur brut international. L'Iran, qui détient les deuxièmes plus grandes réserves de gaz au monde, a demandé à rejoindre le groupe, qui est une puissante alternative de marché émergent à l'Occident. Le ministre iranien de l'économie, Ehsan Khandouzi, a déclaré « La politique de voisinage et la diplomatie économique que le gouvernement iranien a entreprise avec les pays de la région et principalement asiatiques sont sur la même voie. » Et enfin, les États-Unis s'apprêtent à fournir une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine, malgré les mises en garde de la Russie contre la livraison d'équipements de pointe à Kiev. Le président américain dévoilera mercredi près de 2 milliards de dollars de nouvelles aides militaires à l'Ukraine. Selon les responsables américains, le nouveau paquet d'aide militaire d'une valeur de 1,8 milliard de dollars comprendra pour la première fois une batterie de missiles Patriot et des bombes à guidage de précision. Les responsables ont décrit les détails du paquet sous couvert d'anonymat. Les États-Unis ont déjà fourni à l'Ukraine une aide militaire de plus de 19 milliards de dollars. La Russie avait précédemment mis en garde les États-Unis contre l'envoi d'équipements militaires aussi avancés à l'Ukraine. Moscou a déclaré qu'elle considérerait cette initiative comme une mesure provocatrice et que l'équipement serait une cible légitime. La République islamique d'Iran porte un coup fatal au groupe terroriste qui était derrière l'attaque meurtrière de la ville d'Izeh, dans la province du Khuzestan, dans le sud-ouest du pays. Mardi 20 décembre, deux terroristes ont été tués et deux autres capturés lors d'une opération conjointe du ministère du renseignement et du corps des gardiens de la révolution islamique, épaulé par la force de l'ordre de la République islamique d'Iran. Dans un communiqué publié ce mardi 19 décembre, le Bureau des relations publiques du corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé que l'opération avait été lancée plus tôt dans la journée par des agences de renseignement, dont l'Organisation du renseignement du corps des gardiens de la révolution islamique et le ministère du renseignement. L'opération fait suite aux travaux continus en matière de renseignement technique qui ont abouti à l'identification des éléments du groupe terroriste. Le travail de renseignement a été suivi d'un raid. Résultat, deux des terroristes ont été tués et deux autres ont été arrêtés lors d'affrontements avec les forces de sécurité iraniennes qui ont également saisi une quantité d'armes et de munitions, explique le communiqué. Au moins 7 personnes, dont un enfant et une femme, ont été tuées et 12 autres blessées dans une attaque terroriste dans la ville d'Izeh, mercredi 16 novembre. Des individus armés ont tiré sur une foule dans le centre-ville. Le communiqué du corps des gardiens de la révolution islamique indique que les terroristes ont reçu une formation et un soutien d'éléments basés à l'étranger, dont l'objectif est de déclencher des émeutes, propager l'insécurité et commettre des crimes. Le 29 octobre, un terroriste lourdement armé a mené un attentat contre le sanctuaire de Shah-e-Cherar à Shiraz, dans la province du Fars. L'agresseur a ouvert le feu à l'intérieur du sanctuaire. 15 pèlerins, dont une femme et deux enfants, ont été tués et au moins 40 autres personnes ont été blessées. Le terroriste a été blessé et placé en garde à vue avant de succomber à ses blessures. Peu de temps après, Daesh a revendiqué cet acte terroriste. Hier mardi, lors d'une audience accordée aux familles des martyrs de cet attentat terroriste, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a estimé que l'attaque terroriste contre le sanctuaire de Shah-e-Cherar a été gravée dans l'histoire de l'Iran. Le massacre de pèlerins est différent des autres actes terroristes. C'est une honte supplémentaire pour l'ennemi. Outre Daesh, les principaux sponsors et instigateurs de celui-ci sont également complices de la crime. En parole, ils défendent les droits de l'homme, mais en pratique, ils créent de dangereux groupes terroristes, a-t-il souligné. La République islamique d'Iran a été le théâtre d'émeutes soutenues depuis l'étranger au cours des derniers mois. Elles ont éclaté après la mort de la jeune iranienne Mahsa Amini en garde à vue le 16 septembre. Des civils et des forces de sécurité iraniens ont trouvé la mort dans les troubles. Le ministère iranien des Affaires étrangères a fermement condamné la décision des États-Unis de soutenir le chef du groupe terroriste anti-iranien de l'Organisation des Moudjahidines Khalq, OMK. L'alliance du régime américain avec les terroristes et les assassins de plus de 17 000 citoyens iraniens est désormais évidente, a tweeté le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani. Les États-Unis sont légalement responsables de leur violation des droits de l'homme des peuples iraniens et de leur soutien à une organisation terroriste connue, a-t-il ajouté.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, les prix du gaz ont grimpé en flèche en Europe après que la Russie a décidé de réduire ses livraisons de gaz vers l'Europe après justement l'opération militaire en Ukraine. L'Europe, qui a imposé de lourdes sanctions à la Russie, a confronté certains, presque tous les pays européens de l'Union européenne à une crise énergétique sans précédent et bien sûr à des conséquences économiques néfastes. Parmi ces conséquences, on peut citer bien sûr l'inflation sans précédent donc dans ce continent, ainsi que la baisse de la croissance, de taux de croissance en dessous de 1%, ce qui est très grave pour l'Europe. Et certains pays se voient même dans l'obligation d'imposer des mesures d'austérité à la population, comme Rome, l'Italie par exemple, où des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues pour exprimer leur colère vis-à-vis de la politique d'austérité de leur gouvernement en pleine crise énergétique. Donc avant de débattre cette émission, je vous invite à regarder un reportage préparé par mes collègues. On sera avec vous juste après. Restez avec nous, je vous prie.
Le vent va tomber fortement. La croissance de l'économie française va en effet connaître une nette baisse de régime. En 2023, projette la Banque de France samedi. La hausse du PIB va ainsi passer de 2,6% en 2022 à 0,3% l'an prochain. Selon le scénario le plus probable retenu pour les projections macroéconomiques des trois prochaines années, ce tassement suivra d'un rebond à 1,2% en 2024, moins que le plus 1,8% anticipé précédemment, car l'hiver 2023-2024 pourrait encore être un peu compliqué dans le contexte de la crise énergétique, selon son directeur général Olivier Garnier. La reprise se poursuivra en 2025 avec une croissance attendue à 1,8%. La Banque de France a prévu que l'économie nationale devrait connaître une inflation de 6% en 2023. L'indice des prix à la consommation harmonisée devrait rester assez élevé en 2023 à 6% avant de fléchir en 2024, puis revenir enfin à l'objectif souhaité par les banquiers centraux en 2025 à 2,1%. L'Europe a imposé des sanctions à la Russie, notamment dans le secteur de l'énergie, en réaction à l'opération spéciale russe en Ukraine. Cette décision a confronté les pays de l'UE à une crise énergétique accompagnée de conséquences économiques telles qu'une inflation sans précédent. Les inquiétudes des gouvernements européens depuis des mois pour affronter la saison froide se sont accentuées ces jours-ci avec le début de la saison froide. Les responsables politiques de la France ont invité le peuple à ne pas avoir peur de la situation et à maintenir le calme.
Eh bien voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. André Chamy, juriste international depuis l'Alsace. M. André Chamy, bonjour.
Bonjour. Merci pour votre invitation. Bonjour à toute l'équipe ainsi qu'à votre invité.
Tout le plaisir est pour nous. Alors un grand bonjour à M. Xavier Dupré, économiste depuis Bruxelles cette fois. Monsieur Dupré, bonjour.
Oui, merci. Bonjour à vous, à Monsieur Chamy, à Maître Chamy.
Très bien. Ma première question va s'adresser à vous, Maître Chamy, depuis l'Alsace. Alors, comment décrivez-vous la situation économique grave de l'Europe, surtout après cette grande crise énergétique? Est-ce qu'il est temps que les Européens paniquent?
Ils sont déjà en situation de panique actuellement. Mais en réalité, les Européens, ils font une sorte de fuite en avant. Parce qu'aujourd'hui, dans les perspectives économiques et même politiques sur la scène internationale, les Européens n'ont pas de choix à faire. Puisque à partir du moment où vous abandonnez votre souveraineté au profit de l'OTAN et au profit plus particulièrement des États-Unis, dans vos décisions politiques majeures, notamment de ce qu'on appelle les grandes décisions sur le plan financier et les grandes décisions sur le plan économique et stratégique, vous les confiez à une puissance étrangère, évidemment, vous perdez l'essentiel de votre marge de manœuvre qui se réduit à des proportions très limitées, pour ne pas dire quasi existantes. C'est ce qui explique d'ailleurs le surendettement de l'ensemble des pays européens, y compris ceux qui étaient plutôt un petit peu sauvés, notamment l'Allemagne. Mais en réalité, aujourd'hui, la situation est devenue tellement grave que certaines voix commencent à s'élever, notamment en Allemagne, par rapport au coût économique de ce qui est des événements géopolitiques qui se produisent actuellement, et notamment du côté Russie-Ukraine. Mais encore une fois, les politiques européens, c'est-à-dire les hommes et femmes politiques en Europe, n'ont pas de choix parce qu'ils ont confié leur souveraineté et l'indépendance de leurs décisions politiques à autrui. Je m'explique. Aujourd'hui, par exemple, prenez la France, on a dépassé les 3 100 milliards de dettes. Si l'on prend la dette de la France avant l'arrivée de Macron, on était à 2 800 ou 2 900 milliards. C'est-à-dire l'augmentation est juste colossale. 1900, on était à 1 900 milliards. Maintenant, on est à 3 100 milliards. C'est-à-dire il y a une augmentation de plus de 50% en très peu de temps. Sauf que l'économie ne peut pas suivre. Si je devais le traduire en termes plus clairs, une entreprise ou une famille surendettée de la sorte, elle est déjà en situation de dépôt de bilan et elle est déjà mise en quelque sorte sous couvert parce qu'elle ne peut pas continuer de fonctionner ainsi. Et ce n'est pas une question d'argent et ce n'est pas une question de génération de monnaie, mais c'est une question de capacité du pays de répondre à ses besoins, mais surtout à l'avenir de sa population. Parce que quand vous êtes surendetté, vous réduisez votre marge, vous ne pouvez pas agir pour investir, pour développer votre activité et surtout pour, en quelque sorte, préparer l'avenir de votre population. Parce que la population, qu'elle vieillisse ou qu'elle augmente, les besoins matériels augmentent parce que le prix de tout ce qui est matériel en matière médicale, en matière de santé, en matière de, je dirais, d'éducation, de justice, tout ça augmente. Et évidemment, vous n'arriverez plus à répondre aux besoins de votre population, et c'est ce qui explique aujourd'hui, en quelque sorte, ce qui se passe notamment sur le marché de l'électricité, alors que la France était leader en la matière. Aujourd'hui, la France est obligée de chercher l'électricité ailleurs, ce qui devient un comble alors qu'elle dispose d'un parc nucléaire de plus d'une cinquantaine de centrales et normalement elle devrait au contraire en revendre et à peu de coûts. Aujourd'hui, en accumulant les défauts, si j'ose dire, dans son système économique, politique, énergétique, eh bien évidemment, les handicaps deviennent majeurs et entravent à toute action en faveur de sa population, mais en faveur de sa projection vers l'extérieur. Mais l'Europe entière est dans la même situation. Alors certains diraient que c'est à cause de la guerre en Russie, enfin entre la Russie et l'Ukraine. C'est un raccourci. Il y a une petite partie qui concerne ces situations géopolitiques, notamment la partie énergétique, mais en réalité la situation économique globale est littéralement désastreuse parce que les Européens, plus particulièrement les Français, mais les Européens en général, encore une fois, ont perdu leur capacité de mouvement, ont perdu leur capacité d'action. À tel point, par exemple, aujourd'hui, les nouvelles lois émises par l'administration Biden, qui n'est que la suite de ce qui a été décidé par Trump, c'est-à-dire une sorte de renforcement du tissu économique américain face à l'extérieur et dans l'extérieur, on inclut l'Europe. L'Europe n'est pas capable d'y répondre. Par conséquent, ils vont être entraînés dans une espèce de tourbillon qui va les entraîner vers le bas parce qu'il y a la machine à billets américaine qui a commencé à éditer pour financer son économie, pour favoriser ses entreprises, et tout cela au détriment de l'ensemble des entreprises du monde, notamment les entreprises européennes. Absolument. Et par conséquent, ça va créer des situations particulièrement dramatiques et nous sommes, j'ai envie de dire, qu'au début, de nos malheurs, c'est-à-dire les prochains mois et pour ne pas dire les prochaines années, vont apporter des drames économiques, politiques et humains pour l'ensemble des sociétés européennes et je dirais plus particulièrement en France.
Absolument. Monsieur Xavier Dupré, vous êtes économiste et vous êtes avec nous depuis Bruxelles. Alors, vous êtes bien placé pour répondre à nos questions. Alors, André Chamy nous a parlé beaucoup de chiffres choquants. J'aimerais qu'à votre tour, vous décriviez la situation économique suite à cette crise énergétique sans précédent, mais également, ces économistes européens n'ont pas pu prévoir que ces sanctions exercées à l'encontre de la Russie suite à l'opération militaire en Ukraine fera confronter les pays européens à de telles crises et à des conséquences néfastes.
Alors tout d'abord, pour décrire l'état de l'économie européenne actuellement, je crois qu'il faut vraiment se rendre compte de ce que finalement nous sommes ici engagés dans une crise qui représente un peu un bilan de faillite pour le logiciel dominant néolibéral des 40 dernières années. Il est vrai, comme le disait Maître Chamy, qu'on ne peut pas, en ce qui concerne le renchérissement des produits énergétiques, pointer du doigt exclusivement, comme si c'était la seule variable en cause, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les tensions entre la Russie et l'Ukraine. Durant de nombreuses années, et on le constate pour le nucléaire français, on a vu que finalement, une entreprise dont l'actionnaire est l'État, mais c'est un actionnaire de référence, EDF, l'État, mais si cet État est soumis à des pressions austéritaires de la part de l'Union européenne, eh bien, il ne réalise plus les investissements de maintenance et de renouvellement nécessaires à la production d'électricité. On voit également que durant de nombreuses années, nous avons outrageusement, nos réglementations fiscales ont outrageusement favorisé les actionnaires dans la vie de la conduite des entreprises et donc quelque part, eh bien, de grandes entreprises totalement privées pour certaines d'entre elles n'ont pas réalisé des investissements dans le domaine des hydrocarbures qui auraient permis de continuer la production de manière tout à fait satisfaisante pour les consommateurs européens. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons devant toute une série de goulets d'étranglement. Et c'est évidemment un gros souci pour l'ensemble de l'économie. Enfin, il faut bien se rendre compte aussi que les taux de marge des entreprises, là aussi, c'est une faillite du logiciel néolibéral. Nous avons complètement dérégulé le marché de l'énergie en Europe. Que constate-t-on aujourd'hui ? Que les taux de marge des entreprises n'ont fait qu'augmenter. Pourtant, les PME sont sous pression. Les demandes des salariés pour obtenir des augmentations salariales quand c'est possible pour faire face au renchérissement du coût de la vie, ainsi que l'augmentation des prix des produits énergétiques font que les petites et moyennes entreprises sont aujourd'hui, pour un grand nombre d'entre elles, au bord de la faillite. Mais les grands groupes qui ont été dérégulés, qui sont en fait des entreprises monopolistiques privées, celles-là réalisent d'importants bénéfices. Et là, c'est clairement l'héritage négatif de toutes ces années de dérégulation qui ont été, n'ayons pas peur des mots, imposées par la construction européenne à tous les États membres. Alors, ça c'est pour vraiment la description de l'économie européenne aujourd'hui. Et effectivement, vous avez raison d'insister sur, et finalement, le caractère quelque part surinvalidant des mesures, des sanctions qui ont été prises à l'encontre de la Russie, puisque quelque part, vous savez, il faut être très clair. Aujourd'hui, on parle des prix du gaz en Europe. Jusqu'il y a peu, les gouvernants rassuraient les gouvernés en leur disant que nous avions réussi à, ce qui était fou d'ailleurs, à couvrir la totalité de nos besoins énergétiques pour l'hiver. Mais on voit bien qu'il suffirait qu'il y ait 2 semaines de grand froid entre aux alentours de moins 15 degrés pour que nos réserves de gaz soient aujourd'hui complètement à sec. Ou en tout cas très fortement diminué, ce qui aurait évidemment une incidence sur le prix de l'électricité, enfin le prix d'utilisation finale pour le consommateur. Eh bien cela, voyez-vous, ça illustre clairement que il n'est pas possible, et ça n'a jamais été possible pour personne, de suppléer un fournisseur comme la Russie qui assurait 40%, la fourniture de 40% du marché gazier européen. C'est 40% de nos importations, la Russie. Dans ces conditions, vous savez, je pense que ces sanctions se retournent contre nous. Je crois aussi que quelque part, nous n'avons plus, nous, en Europe. Je crois que la plupart des économistes sérieux savent que c'est un problème grave. Certains ne l'ont pas dit parce que leur position, soit ne le leur permettait pas, parce qu'ils étaient employés par le pouvoir, soit parce qu'ils n'avaient pas accès aux médias pour l'une ou l'autre raison. Mais en tout état de cause, tout économiste sérieux sait qu'on ne remplace pas 40% des fournitures d'un pays par une solution de substitution en quelques mois. Ça n'a jamais existé. Et spécialement dans un domaine comme le gaz, qui exige de gros investissements d'infrastructures.
Absolument.
Je crois qu'en réalité, nos gouvernants n'ont plus la maîtrise de leur politique extérieure. Nous sommes très fortement conditionnés par les desiderata et les orientations des États-Unis. Et quelque part, l'Europe s'inflige un retour de bâton parce qu'elle ne maîtrise plus sa défense extérieure, sa politique extérieure. C'est un véritable drame. Le drame de l'européisation de nos économies aura consisté d'une part en une libéralisation aveugle et d'autre part aussi dans une forme d'américanisation de la vie politique de notre continent et de la politique extérieure.
Absolument. Maître Chamy, vous voulez bien réagir face aux propos de M. Dupré, mais avant cela, j'aimerais que vous nous parliez également de ce que vous avez dit, cette phrase que nous sommes qu'au début donc, des problèmes économiques dans ce pays, dans ce continent.
Je le dis sous le contrôle de M. Dupré, qui est plus qualifié que moi pour parler de, je dirais, de macro et de microéconomie, mais en réalité, si l'on parle des éléments du terrain, et je suis sur le terrain, je suis lié directement au tissu économique local et national, je peux vous affirmer qu'aucune perspective réelle n'existe. Aujourd'hui, les gens fonctionnent au jour le jour. Or, en économie, on a besoin de ce qu'on appelle une stabilité, une possibilité d'avoir des perspectives concernant le développement, concernant la stabilité des prix, concernant la stabilité de l'énergie, concernant la stabilité de la fourniture, c'est-à-dire où on doit se fournir pour produire. Toutes ces questions-là, aujourd'hui, sont tout simplement plus que vagues et laissent les entreprises dans l'expectative de voir, tiens, comment ça va se passer demain ? À tel point qu'aujourd'hui, vous avez des responsables, par exemple politiques en France, se réjouissent, ce qui est une absurdité, que les entreprises arrivent à baisser leur consommation en énergie. Il faut être tout simplement imbécile pour imaginer une chose pareille, parce que la baisse de consommation d'énergie, ça veut dire que vous réduisez votre production. La quantité de produits que vous générez est en rapport avec l'énergie que vous consommez. Quand vous commencez à aller dans le sens de la décroissance de production et de la consommation d'énergie, ça veut dire que votre économie est en train de descendre tout doucement, mais sûrement vers le bas. C'est une question, je dirais, de bas à bas, pour ne pas dire d'une simplicité biblique, pour dire on ne peut pas réduire sensiblement la consommation d'énergie des entreprises sans diminuer leur production. Diminuer leur production, ça veut dire diminuer les rentrées fiscales, diminuer les rentrées, y compris pour les actionnaires, diminuer les rentrées des salariés, parce qu'à ce moment-là, vous réduisez votre masse salariale et le nombre de salariés qui travaillent pour chez vous. Et c'est une cascade, en réalité, qui est enclenchée. Et derrière ça, vous avez un État qui a toujours besoin d'autant d'argent pour fonctionner. Où est-ce qu'il va trouver l'argent ? C'est dans l'endettement, sauf que l'argent vaut plus cher aujourd'hui, puisque la Banque européenne, la Banque centrale européenne a augmenté ses taux d'intérêt. Je prends un exemple. Avant cette crise, en réalité, ce n'était pas uniquement cette crise, encore une fois, concernant l'Ukraine, la Russie. Avant la crise économique là, dans laquelle nous traversons, je prends un exemple d'un ménage ou de l'entreprise qui devait emprunter de l'argent. Il devait emprunter à un taux qui était inférieur à 1%. Ça peut être 0,6%, 0,8%, 0,9%. Aujourd'hui, si vous voulez emprunter, vous devez multiplier par 4 ou par 5, voire par 6, votre taux d'intérêt. C'est-à-dire, d'abord, vous réduisez le capital que vous voulez emprunter, parce qu'il faut quand même prévoir sur combien de temps je le réduis. Et la banque elle-même, elle va réduire la capacité de prêter, alors que le prêt aux entreprises, ça fait partie de l'activité économique, de la redistribution de ce qu'on appelle économique, c'est-à-dire sur le circuit, vous prêtez aux entreprises, le produit génère des profits, les profits sont recyclés sous forme de salaire, mais sous forme également d'investissement, et ainsi de suite. C'est ça le circuit économique. Là, vous bloquez le circuit économique par une décision européenne, prise par la Banque centrale, mais en réalité avec l'accord de l'ensemble des dirigeants européens. Ce n'est pas une décision juste de la Banque centrale, même si on parle d'indépendance. C'est-à-dire, nous sommes dans une période qui va plonger l'ensemble de l'Europe, je dirais indiscutablement et indubitablement, dans un marasme économique qui pourrait devenir réellement catastrophique. Et moi, je pense que ça peut préparer des crises beaucoup plus graves encore sur le plan social, économique, humanitaire, etc.
Oui, tout à fait. Xavier Dupré, pour terminer, donc, vous pensez comme Maître Chami qu'il n'y a aucune perspective donc, dans ce domaine pour sauver l'Europe dans cette crise énergétique ?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'il faut prendre un peu de distance critique par rapport aux déclarations de la Commission européenne. Elle nous dit que grâce à des importations supplémentaires plus importantes, donc de gaz naturel liquéfié qatari notamment, on arriverait à faire descendre les cours à partir de 2025. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune solution avant le printemps 2026, là, quasiment. Donc 4 ans de crise comme ça, sous pression, avec des hauts niveaux de prix pour l'énergie, c'est évidemment extrêmement dangereux pour l'industrie européenne. Donc c'est un premier élément. Deuxième élément, je crois que ça ajoute à la perspective, si vous voulez, de quelque part, de marasme généralisé, c'est que il faut bien se rendre compte que les cours qui seront en vigueur une fois qu'il y aura davantage d'installations permettant l'incorporation de gaz naturel liquéfié, notamment en Allemagne, les cours resteront quand même très supérieurs à ce qu'ils étaient à l'année 2019. L'année 2020, j'allais de côté parce qu'à cause du confinement, tous les prix étaient déformés. Mais donc, on aura toujours un coût de l'énergie qui sera très élevé, avec une gouvernance économique de nos grands groupes multinationaux qui, finalement, consiste à peu investir pour privilégier, quelque part, les bénéfices à court terme en faveur des actionnaires. Donc je crois que là, on est sur un modèle qui est, quelque part, en train de, si nous voulons survivre en tant qu'Européens, c'est-à-dire vraiment retrouver une croissance industrielle, retrouver de bonnes perspectives d'emploi, retrouver des perspectives de financement de notre modèle social par l'activité économique, il va falloir changer de logiciel. De ce point de vue-là, nous sommes sans doute... Alors, je n'ai jamais observé historiquement de changement de logiciel économique qui sont aussi finalement des changements idéologiques profonds qui ne se soient quelque part accompagnés, qui n'aient quelque part été précédés par des mouvements sociaux de grande ampleur. Et de ce point de vue, on commence à voir, là maintenant c'est très très net, l'année 2022 aura été une année sociale terriblement chargée au Royaume-Uni, elle le sera davantage encore en 2023, lorsque un certain nombre de dépenses qui étaient liées à la crise Covid et qui soutiennent quelque part le pouvoir des ménages en Europe continentale, lorsque disais-je une partie de ces mesures de soutien sera annulée parce que le Covid n'est plus là, on verra baisser le pouvoir d'achat de la population européenne en Europe continentale et là, je crois qu'il faudra prévoir de plus en plus de mouvements de contestation sociale. Il ne faut pas vivre ce dernier comme étant une catastrophe. Il n'arrive pas par hasard, il ne tombe pas du ciel, ils sont le fruit de politiques économiques qui ont été erronées, qui étaient quelque part finalement favorables à une oligarchie au sein des sociétés européennes. Et la crise en Ukraine aura finalement été, si vous voulez, la goutte qui aura fait déborder un vase déjà bien rempli auparavant. Et ces mouvements sociaux sont nécessaires pour contester l'orientation globale des politiques économiques en Europe aujourd'hui.
Eh bien, c'était l'analyse d'Xavier Dupré, économiste depuis Bruxelles. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Un grand merci à Maître Chami depuis l'Alsace d'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Amis auditeurs, merci d'être avec nous. Nous voici avec un autre programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Prenant la parole à la conférence de Bagdad 2, ce mardi 20 décembre à Amman, capitale jordanienne, le ministre iranien des Affaires étrangères a tenu à souligner le soutien constant de la République islamique d'Iran au gouvernement et au peuple irakien, avant d'exprimer l'espoir que grâce à l'interaction et à la coopération des pays participant à cette réunion, la région du Golfe Persique connaîtra plus de développement, de prospérité et de stabilité. Selon ce dernier, le dialogue et la coopération entre les pays de la région pour parvenir à une compréhension commune sur la stabilité, la paix et le développement ne sont pas un choix, mais une nécessité absolue. Nous considérons que la paix et la stabilité en Iran sont indissociablement liées à la stabilité et à la sécurité de la région tout entière. Et c'est sur cette base que notre politique immuable consiste à éviter la guerre et à contribuer à rétablir la sécurité et la stabilité dans la région, a souligné le chef de la diplomatie iranienne. M. Amir Abdullahian s'est félicité du rôle régional positif de l'Irak dans l'établissement de la paix et de la stabilité à l'échelle régionale, ainsi que la promotion de la culture du dialogue, sans manquer de rappeler la volonté de Téhéran d'approfondir la coopération régionale. La sécurité n'est pas quelque chose qui peut être importé ou acheté, a-t-il dit. Elle ne peut pas être sélectionnée d'une région à l'autre. La République islamique d'Iran s'attend à ce que les pays voisins ne soient pas menacés depuis le territoire irakien. Le premier diplomate iranien a ensuite ajouté que le modèle de coalition le plus efficace parmi les pays de la région est la coalition pour la paix et le développement avec la participation de tous les pays de la région. Et à cet égard, il a rappelé la nécessité de la coopération des pays concernés face aux défis régionaux, tels que les questions environnementales et le phénomène des tempêtes de sable et de poussière. Il a ensuite énuméré les capacités géopolitiques et économiques de la région dans le domaine du transport et du transit entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique, les qualifiant de moteurs dynamiques pour une coopération conjointe entre les pays de la région. Il a également mis l'accent sur une région exempte d'armes nucléaires et armes de destruction massive et la nécessité d'empêcher la possibilité de menacer la sécurité régionale par les ogives nucléaires du régime sioniste. M. Amir Abdullahian a qualifié la cause palestinienne de première question du monde de l'islam et a apporté le soutien de son pays à la résistance face à l'occupation, disant que la solution politique à la question palestinienne consiste à tenir un référendum selon le principe du droit à l'autodétermination parmi les premiers habitants de la Palestine historique, qu'ils soient musulmans, juifs ou chrétiens, à former un État palestinien unifié avec la noble Rots comme capitale. Dans une autre partie de son discours, le ministre iranien des Affaires étrangères a fait allusion aux discussions sérieuses de ces deux dernières années de Téhéran sur son programme nucléaire pour accéder à un bon accord solide et durable. Aujourd'hui, je me suis entretenu avec M. Joseph Borrell, chef de la politique étrangère de l'Union européenne, et tout en le remerciant pour son rôle consultatif dans les négociations de Vienne, je lui ai dit que nous sommes prêts à résumer en respectant les lignes rouges. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a indiqué mardi avoir discuté avec M. Amir Abdullahian lors d'une rencontre en Jordanie en marge de la conférence Bagdad 2. M. Borrell a souligné dans un tweet que les deux parties avaient convenu de garder ouverts les canaux de communication et de restaurer l'accord sur le nucléaire. Le Conseil politique suprême du Yémen a annoncé que les forces armées yéménites étaient prêtes à écarter les complots des États-Unis et du régime sioniste contre les ressources, les îles et les itinéraires maritimes du pays. Le Conseil politique suprême du Yémen a été informé lundi 19 décembre des pourparlers du gouvernement de salut national avec la coalition d'agression saoudienne censée mettre fin à la guerre et lever le blocus imposé au pays. À ce sujet, la chaîne d'information yéménite Al-Masira a rapporté une déclaration du Conseil politique suprême du Yémen pour dire que la situation de « ni paix ni guerre » est inacceptable et que les forces armées yéménites sont également pleinement prêtes. Par conséquent, nous mettons en garde contre la poursuite de cette situation et soulignons que ce problème ne continuera pas sans fin, ajoute le dit Conseil. Le Conseil politique suprême du Yémen a également souligné que la volonté d'établir la paix au Yémen doit se manifester à travers une restauration des droits de ses citoyens, dont notamment le paiement des salaires des employés et la réouverture de tous les aéroports et ports yéménites. Évoquant la nécessité de séparer les questions humanitaires des questions politiques et militaires, le Conseil a affirmé que les progrès sur cette question doivent être considérés comme un indicateur pour mesurer le succès de toute médiation, négociation ou contact. Toujours selon Al-Masira, le Conseil politique suprême du Yémen a également été informé de la préparation des forces armées du pays pour faire face aux convoitises américaines et israéliennes au sujet des ressources, des îles et des voies maritimes du pays. Par conséquent, les forces armées yéménites ont réitéré qu'elles étaient prêtes à faire face à toute menace contre la souveraineté du pays. Avec l'appui américain, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et plusieurs pays arabes ont lancé une guerre à grande échelle contre la nation yéménite en 2014 sans pouvoir atteindre leurs objectifs. Dans cette guerre, des milliers de yéménites ont été tués et des dommages irréparables ont été causés au niveau des infrastructures au Yémen. Dans un nouvel acte d'agression contre la Syrie, le régime sioniste a lancé une attaque au missile contre la capitale, Damas, mardi 20 décembre. Un essaim de missiles israéliens a été lancé pendant une demi-heure en direction d'un nombre de positions près de la capitale syrienne Damas, ont rapporté les médias syriens, citant une source militaire. Mené depuis le nord-est du lac de Tibériade, également connu sous le nom de mer de Galilée, dans les territoires occupés, l'attaque a fait 2 blessés parmi les soldats syriens, a précisé la source militaire, soulignant que la défense aérienne syrienne a intercepté des missiles israéliens et en a abattu un certain nombre. Israël mène fréquemment des attaques aux missiles contre des cibles en Syrie en utilisant principalement l'espace aérien du Liban. Le régime a lancé une attaque similaire contre la capitale syrienne fin octobre, au cours de laquelle la plupart de ces missiles ont été abattus par la DCA syrienne. Les actes d'agression israéliens contre les positions militaires à l'intérieur de la Syrie constituent une violation flagrante de la souveraineté syrienne. Le régime d'occupation garde silence sur les attaques contre les territoires syriens qui, selon des experts, sont une réaction impulsive au succès croissant du gouvernement syrien dans la lutte contre le terrorisme. La Syrie et Israël sont techniquement en guerre en raison de l'occupation des hauteurs du Golan syrien depuis 1967. Tel Aviv maintient une présence militaire importante dans cette région qu'il utilise comme rampe de lancement de ses attaques contre le territoire syrien. Israël a ensuite été l'un des principaux partisans des groupes terroristes qui s'en prennent au gouvernement du président syrien Bachar el-Assad depuis 2011, lorsque le pays s'est retrouvé aux prises avec le terrorisme endémique soutenu par l'étranger. Un prisonnier palestinien qui souffrait d'un cancer était tombé récemment dans un coma profond et décédé des suites de complications médicales causées par une négligence médicale délibérée en détention israélienne. Nasser Abou Hamid, 51 ans, a été déclaré mort mardi matin, 19 décembre, au centre médical israélien Shamir, anciennement connu sous le nom de centre médical Asaf Arofa et situé à 15 km au sud-est de Tel Aviv, ont déclaré l'Association des prisonniers palestiniens et la Commission palestinienne des affaires des détenus et ex-détenus dans un communiqué conjoint. Ces sources ont ajouté qu'Abou Hamid avait été transféré de l'hôpital de la prison de Ramla au centre médical lundi après-midi après que son état de santé s'est gravement détérioré. Plus tôt, la Commission palestinienne des affaires des détenus et ex-détenus a déclaré que le prisonnier palestinien atteint d'un cancer était dans un état assez critique et qu'il avait sombré dans un coma profond, Abu Hamid luttait contre la mort depuis plusieurs mois à l'hôpital de la prison de Rambla. Sa santé s'était détériorée au milieu d'une large propagation de cellules cancéreuses dans tout son corps, avec des dommages complets à son poumon gauche. Il était originaire du camp de réfugiés d'Al-Amari, dans la ville occupée de Ramallah, au centre de la Cisjordanie. Il est incarcéré depuis 2002 et a été condamné à la réclusion à perpétuité après qu'un tribunal israélien l'a reconnu coupable d'avoir participé à des attentats pendant la deuxième intifada palestinienne. Abu Hamid a reçu un diagnostic de cancer du poumon en août 2021, après que les autorités israéliennes ont retardé la fourniture d'examens médicaux et de traitements, selon des groupes de prisonniers. Sa famille avait appelé toutes les instances internationales concernées à prendre des mesures urgentes et efficaces pour sauver la vie de leur fils. Le mouvement de résistance palestinien Hamas basé à Gaza a déploré la mort de ce prisonnier.